mardi sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette méridienne. Alors, pour commencer cette méridienne, un petit mot sur le festival du cinéma italien contemporain de Tours, Viva il Cinema, qui se tiendra bien du 4 au 8 mars. Halt aux fake news, le coronavirus n'a pas eu raison de ce festival. Donc rendez-vous ce soir, salle Télème, à 20h pour la cérémonie d'ouverture. Et puisque le festival ne se laisse pas faire par le coronavirus, peut-être que certains invités italiens ne pourront pas venir jusqu'à nous, mais les films seront là quand même. Je vous propose d'écouter une chanson en italien et nous allons écouter Vittorio De Sica, Io son Pacifico. On se retrouve tout de suite après dans la Méridienne.
Il mondo è una gran palla, c'è chi affoga e chi sta a galla, chi si lagna senza un perché. Chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. La luce m'han levato ed il gas m'ha sigillato, come pago se non ne ho? Per me non mi lamento, son più bello al lume spento, un gran male non è perciò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Prestai a un vecchio amico 100 lire e non vi dico quanto affetto mi dimostrò. Adesso è un pezzo grosso e io sono ridotto all'osso, ma quei soldi più non vedrò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. 11 siamo amati, ora i tempi sono cambiati, la mia donna stanca di me. C'è pure chi mi informa che ogni dì mi fa le corna e mi inganna con 2 o 3. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Lei mi tradisce, ma se piango, che fa? L'umanità ne riderà. Io son pacifico, tutto è magnifico, la vita prendo ognor com'è.
C'était Vittorio De Sica dans la Méridienne sur Radio Campus Tours. Et oui, ne nous laissons pas abattre par le coronavirus, la grisaille et autre chose désagréable. Et pour poursuivre cette Méridienne, je vous propose d'écouter une interview de Blandine Decaune réalisée par Audrey, une de nos bénévoles. Voilà, elle est rencontrée à la boîte à livres, librairie bien connue des Tourangeaux, qui se trouve rue Nationale. Voilà, elle nous offre quelques minutes de sa rencontre avec Blandine Decaune. Elle nous parle de son dernier livre, La mer morte. On se retrouve, évidemment, tout de suite après dans cette Méridienne.
Merci de répondre aux quelques questions de Radio Campus.
Bonjour.
Merci déjà pour votre livre, La mer morte. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça contient, La mer morte ?
La mer morte, c'est à la fois ma mère, qui était Benoîte Groult, une féministe et une écrivaine connue, qui malheureusement a eu la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que, voilà, elle a perdu la tête. Donc, elle était morte déjà en étant encore vivante, mais elle allait mourir. Et puis, il se trouve que 3 mois avant sa mort à elle, j'ai perdu ma fille unique dans un accident de voiture. Et donc, le titre que j'avais déjà choisi, mais a pris un double sens auquel je n'avais évidemment pas pensé. Et voilà, donc la mère morte, c'est la mère en moi qui est morte et ma mère qui est morte.
C'est ce qu'on voit dans votre récit, c'est l'amour d'une mère pour sa fille et l'amour d'une fille pour sa mère.
Oui, dans les deux sens.
Vous disiez que vous aviez déjà réfléchi au titre, c'est-à-dire que vous aviez prévu d'écrire ce livre depuis longtemps déjà ?
Oui, 2-3 ans, quand maman a commencé à un peu perdre la tête, je me suis dit... Elle a écrit sur tous les épisodes de sa vie, aussi bien par la fiction que par l'autobiographie. Donc, elle aurait aimé qu'il y ait le dernier chapitre de sa vie, mais elle ne pouvait pas l'écrire, évidemment. Donc, je me suis dit, c'est moi qui vais le faire pour elle.
C'est un très beau cadeau que vous lui
offrez. Oui, je voulais vraiment lui faire comme un cadeau. Et j'ai pensé à ce titre, oui. Et je me suis dit, c'est un beau titre et qui décrit bien ce qu'il en est.
Est-ce que ce livre était pour vous un exutoire face à ces drames que vous avez connus ?
Un exutoire, peut-être pas. C'était d'abord une nécessité absolue. Il fallait que je l'écrive. Même si c'était très douloureux, parce qu'il a fallu que je replonge dans tous ces moments si difficiles. Mais j'avais besoin de le faire aussi comme une sorte de tombeau littéraire que je leur offrais à toutes les deux. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui vient de je ne sais pas qui, d'ailleurs je crois de l'Antiquité égyptienne. On meurt 2 fois, la première physiquement, la seconde quand plus personne ne prononce votre nom.
Avec ce merveilleux cadeau, vous êtes sûre que personne ne sera oublié dans votre famille ? Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez que vos lecteurs ressortent de ce récit ?
Oui, ça se termine par une note d'espoir et sur l'amour de la vie. Je pense que, en tout cas pour moi, la vie est plus forte que tout, malgré tout, et qu'elle vaut la peine d'être vécue, malgré les épreuves, malgré les deuils, malgré les chagrins. Et c'est un hymne à la vie, finalement, paradoxalement.
Absolument. Quand on vous lit, on voit bien que c'est l'amour qui ressort à travers tout. Vous avez dédié votre livre à Zélie, votre petite fille. Est-ce qu'elle l'a lu ?
Elle en a lu la moitié pour l'instant, et elle avait lu avant la sortie du livre, elle me l'avait demandé, les passages qui la concernent. Et elle m'avait dit, bon, c'est bien, c'est
alors,
bien.
Alors d'accord, elle avait donné son approbation.
Oui, absolument.
Est-ce que vous pourriez me faire l'honneur de lire un chapitre ou un paragraphe que vous préférez dans votre ouvrage ?
Je préfère, c'est difficile, vous me prenez. On va essayer. Maman a toujours été dans le déni de ce qui la dérangeait. Cela lui a réussi longtemps, mais j'ai l'impression que ça l'a empêché de vivre sereinement sa vieillesse. Autant que faire se peut en tout cas. Elle n'a jamais su ni voulu s'adapter. Abandonner le ski, le vélo, la pêche, des deuils insurmontables, et elle a usé ses forces dans un combat perdu d'avance. Je lui en veux de ce que je considère, à tort, comme de l'orgueil mal placé. Avec Lison, ma sœur, on se dit tout le temps, on ne fera pas comme elle, mais il ne faut jurer de rien.
Merci beaucoup encore, Madame de Caunes.
Merci à vous.
J'espère que nos auditeurs seront ravis de découvrir cette facette inconnue de votre vie, et encore merci.
Et oui, c'était une interview de Blandine de Caunes par l'une de nos chroniqueuses. Merci à Audrey qui a réalisé ici sa première interview pour Radio Campus. Alors, chers auditeurs, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans le studio mon invité du jour, c'est Hélène Bélanger. Bonjour Hélène Bélanger.
Bonjour.
Alors, vous êtes photographe et vous êtes en plein montage de votre exposition Science Porn qui se tiendra du 6 au 22 mars au péristyle de l'hôtel de ville de Tours. Alors, tout d'abord, est-ce que vous voulez nous dire comment on devient photographe ?
Alors, est-ce que je suis vraiment photographe ? Ça, c'est une autre question. Mais alors, du point de vue très universitaire, moi, j'ai commencé par du droit. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on est sur un campus où il y a des facs de droit. Et j'ai rencontré un prof historien du droit qui m'a amené jusqu'ici. Donc, j'ai eu un petit comeback dans l'histoire de mes études. Et sinon, j'ai fait ensuite histoire de l'art et ensuite j'ai fait l'école d'art en photographie. Donc voilà comment on devient photographe, au moins du point de vue du CV. Mais après, je ne me définis pas forcément comme photographe au sens où je récupère beaucoup d'images au sein de ma culture visuelle que je vais me réapproprier par l'installation ou la retouche.
Voilà, mais alors quand même pour nos auditeurs, parce que nous sommes une radio étudiante, donc évidemment les parcours pas forcément linéaires, ça ne peut qu'intéresser, je pense, nos auditeurs. Alors comment est-ce qu'on passe du droit au travail de l'image, même si peut-être vous ne vous définissez pas, en tout cas pour le moment, comme photographe? Est-ce que c'était un intérêt que vous aviez déjà et finalement c'est ça qui a pris le pas sur le droit, ou est-ce que c'est venu plus tard? Comment se sont passées les choses?
Bah, c'est une suite de hasards, beaucoup, et de belles rencontres. Et donc, je suis partie en 3e année de droit en Erasmus, en Italie. Et là, j'ai essayé beaucoup de choses en dehors du droit et j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Et là, j'ai réalisé que l'art, c'était pas seulement un hobby, mais ça pouvait aussi être un métier. Et donc là, j'ai décidé de me réorienter, toujours petit à petit. Donc, je suis passée par l'histoire de l'art avant pour pouvoir lier potentiellement le droit à l'histoire de l'art, un peu en porte de sortie de sécurité. Et finalement, j'ai fait cette école d'art en Master 2 après mes deux licences. Donc c'est un petit peu le hasard, disons que j'ai toujours gardé ce filet de sécurité des études que je pouvais combiner, et j'ai fait ces 3 années de droit toujours un peu dans le déni, en train de me dire que j'allais pas forcément faire artiste en sortant, puisque je crois que moi personnellement je viens pas d'une famille d'artistes. Je pense que quand on n'est pas entouré d'artistes, c'est pas une évidence de se dire qu'on va se lancer dans l'art comme un métier. Et en sortant de l'école d'art, de photographie, j'ai finalement eu la chance d'être sélectionnée pour une résidence, puis pour une exposition, puis pour un prix, puis ça s'est en fait fait naturellement. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se dire qu'on va être artiste.
Voilà, et comment dire, on voit quand même, hein, depuis 2014, vous avez fait un certain nombre de résidences, vous avez quand même fait beaucoup d'expositions. Enfin, je pense que pour une jeune artiste, c'est quand même un parcours déjà impressionnant.
Oui, j'ai beaucoup de chance depuis que je suis sortie en 2016. Donc j'ai fait 3 ans à Arles entre 2013 et 2016. J'ai beaucoup exposé. Mais je crois que c'est aussi l'effet jeune artiste qui est un petit peu plus facile à exploiter, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'être un jeune artiste émergent qu'un artiste mi-carrière à 35 ans, dont la moitié des prix ne sont plus ouverts. Donc disons que je surfe sur une bonne vague de jeunes artistes émergents, mais il faut que ça dure sur le long terme.
Ah tiens, alors un secteur où être jeune n'est pas un handicap, c'est l'art, alors c'est encore un endroit où on peut être jeune.
C'est ça. Voilà, et être jeune, c'est moins de 35 ans dans l'art, voire moins de 45 ans, donc il y a de la marge.
Voilà, bon, et ben, tant mieux, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors venons-en peut-être à cette exposition sur laquelle vous travaillez, enfin, vous êtes en train de l'installer, de la monter au péristyle de l'hôtel de ville. Donc c'est Science Porn, donc c'est un travail que vous avez mené avec l'unité de recherche mixte 1253 de l'INSERM. On salue l'INSERM au passage, hein, puisqu'on a la chance d'avoir un partenariat éditorial avec l'INSERM Grand Ouest, qui permet aux chercheurs de venir une fois par mois dans cette émission, La Méridienne. Et donc là, on a la grande chance de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce travail photographique. C'est, je crois, la 8e édition de ce partenariat, La Recherche de l'Art. Qu'est-ce que vous aimeriez dire de ce projet ?
Alors déjà, par rapport au partenariat, c'est la 8e, mais aussi la dernière édition. Et donc j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée pour participer à ce projet et surtout d'avoir été sélectionnée par le laboratoire de Tours, puisque c'est un partenariat qui existe entre l'école d'Arles en photographie et l'INSERM. Et nous, on choisit un des laboratoires proposés et ensuite c'est le laboratoire qui vient choisir les artistes en partenariat avec l'école d'Arles qui vient valider les sélections. Donc déjà, je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée pour ce laboratoire, notamment pour la très bonne ambiance que j'ai trouvée au sein de l'équipe, mais aussi pour avoir eu la chance de découvrir tout un champ de neurosciences, de recherche scientifique, un monde que je connaissais absolument pas et que j'ai trouvé très très inspirant et qui continue de m'inspirer pour d'autres projets, d'autres résidences. Donc déjà, en termes de projets, de partenariat, je suis très contente d'avoir été sélectionnée. Et donc, pour résumer un petit peu la résidence, on est sélectionné pour 3 semaines, 1 mois, pour venir dans le laboratoire de recherche qui nous a sélectionnés. Et on travaille pendant 3 semaines, 1 mois, avec les scientifiques qui sont donc disponibles pour travailler avec nous. Et on vient poser notre regard un petit peu décalé sur les recherches que font les scientifiques.
Alors, comment on est reçu quand on est un artiste visuel dans une unité mixte de recherche ? Est-ce que ça apporte des regards peut-être un peu étonnés, peut-être pas méfiants, mais en tout cas surpris ?
Je pense qu'oui, il y a beaucoup de curiosité et en même temps, je pense que c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'on cherche en tant qu'artiste. Puisque nous, on va commencer à s'intéresser à du vocabulaire, par exemple, qui paraît évident dans le discours quotidien. Ou alors on va commencer à s'intéresser à certains usages de couleurs, ou alors certaines formes qui ressortent, qui sont finalement tellement utilisées au quotidien qu'on finit par ne plus les voir. Donc l'artiste, là où il a un regard que moi j'appelle décalé, c'est qu'il vient poser un regard sur des choses qui sont utilisées au quotidien et qui d'un seul coup prennent une forme, un usage différent dans la reprise artistique. Donc je pense qu'il y a eu un peu de la curiosité, en même temps je pense parfois, j'imagine un peu d'incompréhension envers ce qui m'intéressait. En tout cas, j'ai trouvé tout le monde hyper enthousiaste, ils sont tous venus m'aider, ils ont ouvert leurs atlas d'anatomie, ils sont venus coloriser des IRM avec moi, enfin ils viennent même m'aider pour installer l'exposition. Donc je pense qu'ils étaient plutôt enthousiastes aussi.
Est-ce que vous voulez nous raconter alors au cours de ces semaines de résidence, quel support vous avez fini par choisir, comment ça s'est passé
Comme support, vous voulez dire pour l'exposition ce qui va être présenté ou
Parce que vous parliez d'IRM colorisé, donc
oui.
Sur quoi avez-vous porté votre choix? Comment vous avez collecté les images à l'Inserm?
Oui.
Comment on les trie? Comment on les hiérarchise?
Oui,
je pense qu'après,
oui.
Il y a tout un travail après pour en faire autre chose. Est-ce que vous voulez nous raconter ça?
Oui. Alors, comme je disais, déjà, j'ai une pratique de photographie, mais aussi d'artiste iconographe, au sens où je vais récolter des images que je vais me réapproprier. Donc j'ai toute une phase de ma recherche qui passe par une collection un peu boulimique d'images. Donc je suis allée voir différents chercheurs, différents laboratoires, j'ai collecté comme ça, donc je parlais des atlas d'anatomie, j'ai scanné pas mal de planches, j'ai aussi récolté des IRM, j'ai récolté des planches de contact, j'ai pas forcément les termes, je pense que si les scientifiques m'écoutent, ils vont pas reconnaître le vocabulaire, mais... j'ai collecté par exemple des chartes de couleurs pour logiciels de scientifiques, donc j'ai toute cette phase de collecte, et à côté de ça je poursuis un travail de recherche qui me permet de porter moi-même un regard décalé sur la collection que je récupère. Et par rapport à ce projet, moi je m'intéressais beaucoup au concept d'objectivité, qui est un concept extrêmement diffus dans le milieu scientifique contemporain et qui pourtant a une histoire qui commence au 19e siècle, 18e siècle, pardon, avec... On s'approche progressivement du concept du rejet de la subjectivité, c'est-à-dire de la perception de ce que moi je considère, enfin du moi-je. Et donc je me suis intéressée comme ça au concept d'objectivité, à cette espèce de force probatoire qu'ont les images scientifiques sur les imaginaires collectifs, et notamment du point de vue du grand public, puisque moi je représente avant tout le grand public face à cette série d'images scientifiques. Et donc voilà, ça c'était mon sujet. Et après j'ai opéré, par exemple, je parlais d'une sorte de colorisation d'IRM, j'ai travaillé avec Laurent Barentin, donc qui est chercheur à l'Inserm, au laboratoire. Et pour donner un exemple concret, j'ai récupéré un IRM et j'ai récupéré une charte de couleurs du logiciel Imagi, qui est une sorte de Photoshop pour scientifiques, où on vient recoloriser des images avec les chartes de couleurs de ce logiciel. Et au sein de cette charte de couleurs, j'ai découvert la lutte, donc la charte de couleurs Warhol. Donc je trouvais ça assez intéressant de retrouver du vocabulaire d'histoire de l'art au sein du vocabulaire scientifique. Et d'ailleurs, je trouvais aussi ce document de charte de couleurs assez visuel, assez intéressant. Et je me suis dit, tiens, intéressant cette charte, intéressant Warhol. On parlait aussi beaucoup de fausses couleurs. On revient donc au vocabulaire qui m'a intéressée aussi aux couleurs. Le concept de fausses couleurs qui revenait beaucoup dans les discussions. Donc je leur demande qu'est-ce que c'est qu'une fausse couleur. Et on m'explique qu'en fait, les images scientifiques ne sont pas réellement de cette couleur-là, mais sont colorisées pour faire ressortir certaines informations. Et je me suis dit, tiens, Warhol, charte de couleurs, fausse couleur, et si on poussait dans ces retranchements le concept de fausse couleur? Et donc j'ai décidé de Warholiser un seul IRM avec toutes ces chartes de couleurs. Donc ça donne une installation très pop.
Voilà, donc là, je pense que ça... Elle sera visible, cette
oui,
installation.
Oui, oui, oui. Elle est très grande, elle est dans un très bel écrin qui est celui de la mairie de Tours. Et donc on l'a installé hier soir, donc ça y est, c'est installé. Et j'ai déjà eu des retours des gens qui passaient devant et qui étaient plein de questions et d'intérêt pour le projet. Donc je suis déjà très contente à voir avec le reste.
Et donc ça s'appelle Rainbow.
Rainbow, oui.
Voilà, un jeu de mots avec le rainbow.
Ouais.
Et donc pour que les auditeurs puissent se faire une idée, hein, ces images dont vous parlez d'IRM, c'est-à-dire une coupe transverse de,
oui,
du cerveau, donc avec des colorisations évidemment pas naturelles.
Mm-hmm.
Et donc jaune,
de fausses couleurs,
rouge, bleu, mm-hmm, selon. Mm-hmm. Voilà, donc ça renvoie, pour ceux qui regardent les séries scientifiques, je pense que peut-être vous avez aperçu ça. Dedans. Et donc cette idée de fausse couleur, ça veut dire que ce qu'on présente comme la science, comme le vrai, on est quand même toujours quelque part un peu dans le mensonge, visuel en tout cas.
Ah, je trouve que c'est des mots forts, mensonge. Puis de toute façon, je pense que l'artiste n'est pas là pour moraliser, il est là plus pour soulever des questions que pour porter un regard extrêmement critique et moralisateur. Mais disons que moi, je me suis intéressée en fait aux coulisses de ces images qui font partie de ma culture visuelle, mais aussi des magazines de vulgarisation scientifique, mais même les suppléments sciences du monde. Je me suis plus intéressée à cette culture visuelle-là, qui est celle à laquelle j'ai accès finalement. Et je me suis intéressée aux coulisses de cette popisation, de cette Disneylandisation de ces images, mais sans regard moralisateur.
Alors, Disneylandisation des images, est-ce que vous voulez préciser cette idée ?
Oui, alors on parle beaucoup de Disneylandisation du paysage. Donc moi, j'ai un peu utilisé cet adjectif pour les images scientifiques. Mais c'est toute cette iconographie extrêmement pop, extrêmement saturée, qui est là pour attirer le regard et qu'on peut utiliser d'ailleurs dans le paysage. On a ces images de coucher de soleil extrêmement pop, que d'ailleurs j'ai beaucoup utilisées dans mes anciens projets, mais qui marchent aussi avec l'image scientifique, c'est-à-dire à notre époque contemporaine où on dit « publish or perish », donc cette pression de publication dans la science implique également un besoin d'attirer l'œil pour pouvoir publier. Donc, c'est vrai que c'est cette question de attirer l'œil, donc rendre la science un peu plus sexy, elle est assez, assez présente. En tout cas, je l'ai sentie assez présente pendant mes 3 semaines, 1 mois de résidence.
D'ailleurs, donc, une banque d'images INSERM, mais je crois que pour vos travaux, vous avez aussi fait appel à Instagram, justement.
Là, oui.
Qui est vraiment une banque d'images universelle. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas qui est... Vous voulez dire un mot pourquoi vous avez choisi ça ? Et d'ailleurs, ça fait un lien avec le fameux food porn, parce que là,
complètement.
Science porn, food porn sur Instagram. Donc
complètement. D'ailleurs, le titre de l'exposition Science porn vient de cette installation. Donc ça, c'est un projet que j'ai plutôt développé après ma résidence d'un mois, puisqu'en général, les résidences ont produit, mais le travail continue de se développer après la résidence. Donc j'ai continué mes recherches sur cette Disneylandisation de la science. Et il se trouve que je me suis créé un compte Instagram depuis pas longtemps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en termes de banque d'images Instagram. C'est-à-dire que quelles iconographies ressortent, pour quelle digestion de la culture visuelle par monsieur et madame tout le monde. Donc, je m'intéresse beaucoup au réseau Instagram. Et j'ai juste tapé hashtag science. Je voulais juste voir ce qui ressortait comme image. Et le premier hashtag qui est sorti a été hashtag science porn. Donc là, j'ai trouvé intéressant, le lien avec food porn, donc cette iconographie de nourriture extrêmement dégoulinante, mais extrêmement saturée, extrêmement sensuelle presque, ou sexy. Et j'ai trouvé intéressant que le science porn, que le porn ou la sexitude de la science ressortent dans les hashtags, quoi, dans les images. Et effectivement, on retrouve comme ça, en faisant défiler les images, en scrollant, toute une série d'images extrêmement pop, aussi des images assez décalées. Des fois, on ne comprend pas trop comment le hashtag se retrouve ici. Mais on retrouve surtout comme ça un flux d'images très, très saturé. Donc, ça faisait vraiment écho à la recherche que j'avais menée à l'INSERM. Et je me suis dit, mais ça crée une boucle. C'est-à-dire comment on passe de la création des images, donc ce que j'ai déconstruit avec les scientifiques de l'INSERM, pour étudier la réception de ces images dans les imaginaires collectifs. Donc ça sera présenté aussi dans l'exposition et sous une nouvelle forme par rapport aux rencontres d'Arles.
Voilà, donc on peut peut-être préciser justement que les rencontres d'Arles, vous aviez fait une collection d'images Instagram et elles sont imprimées sur un très long film translucide Voilà, alors pourquoi vous avez choisi ce format? Parce que ça fait aussi penser peut-être aux films de cinéma, aux vieux films de cinéma. Et donc là, comment vous allez exposer ces images?
Oui, un petit peu comme le choix de devenir artiste, il y a beaucoup de choix formels qui arrivent par, non pas par hasard, mais par une succession de tests qui amènent à définir la forme. Donc j'avais déjà en tête depuis le début de recréer cette impression de flux et donc de présenter sur sa longueur toutes ces images. Donc j'avais un peu en tête le ruban. Je voulais aussi qu'on reste proche de la dimension réelle des images, donc c'est-à-dire la taille d'un smartphone. Donc j'ai pris la taille de mon smartphone qui était de 6 cm de large. Et je voulais aussi, je travaille beaucoup par protocole, donc je voulais aussi qu'on puisse s'arrêter, puisque sinon ça ne s'arrêterait pas et ça continuerait à être alimenté dans l'exposition. Et je ne trouvais pas le moyen technique de continuer à alimenter dans l'exposition toutes ces images. Et puis ça devenait aussi un travail en soi, et j'ai aussi deux expositions, et du coup j'ai dû trouver cette contrainte. J'ai décidé de prendre sur un seul jour toutes les images Science Porn qui ressortaient. Et donc ça nous donne donc 6 cm de large de ruban et 14 mètres de large, de long, pardon, de ruban. Donc ça, c'est présenté dans l'espace d'expo. Ça sera présenté sur une table lumineuse qu'on peut dérouler. Enfin, le ruban, on peut le dérouler sur la table lumineuse et venir comme ça étudier cette culture visuelle qui est la nôtre. Et pourquoi le film plastique? Alors, ça a été... un choix formel, parce que je trouvais ça plus élégant dans l'espace d'exposition en termes de forme. Ça crée des arrondis, des déroulés plus élégants. Et ensuite, je parle de hasard, parce que ce ruban était présenté devant une fenêtre. Et donc, la lumière faisait ressortir beaucoup plus les images. Et d'où l'idée de présenter cette fois-ci le ruban sur une table lumineuse.
Ouais, donc cette idée d'image... Et là, c'est parce que j'étais sur l'idée du film, hein, mais vous venez d'expliquer.
Mais effectivement, oui, on peut aussi voir un lien avec le film, la pellicule photo. D'ailleurs, la table lumineuse est un lien aussi à la pellicule photo.
Alors, si je dis ça, c'est parce que j'ai pensé aussi à Jean Painlevé, en voyant cette non-pellicule, du coup, de film. Là, cet artiste qui était biologiste aussi, hein, réalisateur et biologiste français, et donc qui a fait toute une série de petits films autour des animaux. Donc, il y a les méduses, il y a, je crois qu'il y a les chauves-souris, enfin, il y a plein de choses comme ça, et il y a un côté assez humoristique aussi dans ces films. Donc, voilà. Moi, j'ai pensé à ce travail-là, mais bon, voilà, je projette.
Du coup, c'est bien, projetez-vous.
On reste dans le cinéma. Je propose de faire une pause musicale pour qu'on puisse reprendre notre souffle. Et voilà, on se retrouve tout de suite après. Donc, à propos de réappropriation, de détournement et autres, je propose, chers auditeurs, d'écouter la version japonaise du petit bikini à pois. Comme ça, je vous évite mon excellent accent anglais. Et on se retrouve tout de suite après dans la Méridienne.
それはちょっぴり隠したビキニスタイル今日初めてしたからあいちびちちりウィリエロこけたビキニのお嬢さん
ねえみんなもっといいこと教えてあげようか
あの子は小屋の表にいるのが怖いから体に毛糸巻きつけ波の中にしゃがんでる
あの子何着てるか教えてあげようか
それは水玉模様のビキニの水着さ今日初めて着たのさあいちびちちにウィニーエロポケだビキニのお嬢さん
ねえねえみんなもっといいこと教えてあげようか
あの子は波の中から恥ずかしくて出られない寒くて泣いてるうちにかわいそうに青ざめた
あの子何着てるか教えてあげようか
それは水玉模様のビキニの水着さ今日初めて来たのさあいちびちちにウィニエロポケタビキニビキニのお嬢さん親からゲット聞いて海辺走り波に潜ったがもう逃げられない
Yu Sakamoto sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours La Méridienne et mon invité aujourd'hui c'est Hélène Bélanger donc, qui est en pleine installation de son exposition Science Porn qui se tiendra du 6 au 22 mars au Péressil de l'hôtel de ville. Donc vous nous expliquiez d'où proviennent vos images, donc les banques d'images Inserm, Instagram, et il y a aussi, je crois, alors je ne sais pas si ce sera présent dans cette exposition, mais un atlas d'anatomie japonais de 1742, très exactement. Alors pourquoi vous avez aussi été, en tant qu'artiste iconographe, vous avez été puisé dans ces sources anciennes ?
Alors ça ne sera pas un atlas d'anatomie japonais, par contre il y a certaines images qui sont extraites d'un atlas d'anatomie japonais. Mais c'est une sorte d'atlas rempli à l'infini, puisque autant des images contemporaines que je vais récupérer sur la banque d'images de l'Inserm ou même sur Google Images, et d'autres qui viennent plutôt d'atlas d'anatomie, je pense notamment à Christophe Destrieux, qui est chercheur au laboratoire Inserm de Tours et qui m'a ouvert sa collection d'atlas qui est magnifique. Donc déjà, je trouvais l'objet atlas physiquement intéressant, assez grand, un rapport à l'image qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, qui est beaucoup plus dématérialisé, beaucoup plus rapide. Là, on avait un rapport à l'objet, un rapport à la taille, au papier. Donc je trouvais l'objet assez intéressant. Et donc j'ai décidé pour cet atlas qui joue autant sur l'objet classeur de SVT qu'on peut avec des spirales métalliques que sur la forme d'un atlas d'anatomie du XVIIe siècle qui est au format à double éléphant, donc c'est du 50-70 pour la taille des images. Et j'ai décidé de créer une sorte de diptyque d'images en présentant toujours une image contemporaine et une image extraite d'un atlas d'anatomie. Donc je parle de l'atlas d'anatomie japonais que j'ai trouvé, lui, sur Internet, en accès libre. Et je voulais vraiment... J'ai mis toutes les images en noir et blanc. Je voulais déjà donc lisser, qu'on ne puisse pas se dire « tiens, ça c'est vieux, tiens, ça c'est contemporain », qu'il y ait une sorte de remise à niveau, donc ces images ramenées au même niveau, celui du noir et blanc. Et je voulais qu'on puisse d'un seul coup comparer l'iconographie, donc vraiment la culture visuelle scientifique, celle d'aujourd'hui, celle d'hier, et sa partie un petit peu, pas absurde, mais fictionnelle, c'est-à-dire la part de fiction qu'on peut trouver dans les images scientifiques. Sur mon site, et je vois que vous avez une photocopie, je donne l'exemple de ce diptyque d'images où on a à gauche une tractographie. Donc, si je me souviens bien, c'est une image contemporaine qui permet de représenter les filaments blancs qu'on a dans le cerveau. Donc ça, c'est l'image de gauche qui est en noir. Et à droite, on a une image qui vient d'un atlas japonais de 1792 et donc qui représente le cerveau à cette époque-là. Donc à gauche, c'est une image qu'on pourrait qualifier de réaliste, en tout cas qui, sans vraiment être scientifique, on pourrait s'imaginer que c'est une image qui représente tous les filaments blancs. Or comme dirait Christophe Destrieux, cette image, ceci n'est pas une image de filaments blancs. C'est-à-dire que même si cette image paraît très réaliste, elle ne représente qu'un petit pourcentage de tous les filaments blancs qu'on a réellement dans le cerveau. Donc cette image qui paraît assez objective, pour revenir au concept d'objectivité, reste encore une fois un état de la science à un certain moment donné. Et donc il y a une petite part de fiction effectivement qui s'invite dans cette image. À droite, c'est un peu plus évident de reconnaître la part de fiction, d'imagination, puis de stylisation aussi des images scientifiques, puisque là, le cerveau est représenté un peu comme un gros plat de pâtes, on dirait un gros plat de spaghettis, et c'est lié à un œil, qui, donc je pense que c'est pour définir la vision. Et je trouvais assez intéressant d'avoir en regard comme ça ce diptyque d'images, donc deux versions à deux époques différentes de la science. Une par le dessin, une dans un atlas d'anatomie et une autre, une tractographie contemporaine. J'espère que j'ai été claire.
Oui, oui, mais déjà on invite évidemment les auditeurs à aller voir votre travail. Et c'est très intéressant parce que vous mettez en regard deux images qui correspondent à deux époques et même à deux aires culturelles différentes. Et en fait, elles sont toutes les deux déjà dépassées. Donc ça veut dire que... En fait, l'image scientifique reste une chimère. En fait, elle reste insaisissable puisque de toute façon, au moment même où elle est produite, elle est déjà dépassée.
Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais surtout, l'image scientifique reste un état des recherches à un moment donné et implique une certaine limite et une certaine fiction qui n'est pas du tout présent dans les esprits des imaginaires collectifs, j'imagine, puisqu'on parle d'une force probatoire ou force d'objectivité de ces images. Je trouvais assez intéressant de ramener à son côté stylistique et fictionnel, voire absurde dans certaines images, des images scientifiques.
Alors peut-être un mot encore sur les formats. Donc on avait... ce grand ruban d'images Instagram, on a là ce classeur de SVT, et puis là, un tapis de souris aussi, vous avez composé cet objet, donc un tapis de souris à partir d'une image aussi, je suppose.
Oui, alors ça ne sera pas présent dans l'espace d'exposition, mais je n'ai pas du tout composé cet objet, c'était vraiment présent au laboratoire INSERM. Donc c'est un tapis de souris très pop, qui je pense représente une image... scientifique, mais je ne sais pas exactement ce que ça représente comme image scientifique. Je trouvais assez intéressant l'usage des couleurs, parce qu'on a du violet, du jaune, du bleu, c'est très très saturé. Et il y a un côté assez décoratif dans cet objet, puisque bon, c'est un tapis de souris, mais c'est aussi assez joli. Donc je trouvais que c'était assez représentatif aussi de ma recherche, donc de l'utilisation de ces images scientifiques pour la décoration aussi.
Donc vous avez pris en photo quelque chose qui ressemble, mais somme toute, vous auriez pu fabriquer cet objet-là.
J'aurais pu effectivement fabriquer cet objet-là. Et en même temps, je trouve plus intéressant, un peu comme cette boulimie d'images, de travailler avec le matériel déjà existant. Donc de poser un regard sur ce qui existe et non pas simplement le pousser un peu plus loin et le créer moi-même. Je trouve que ce qui existe déjà parle de nous suffisamment bien.
Et il y a aussi un support qu'on a pu voir dans d'autres de vos expositions, c'est le papier peint. Donc là, je pense par exemple à l'exposition Les corps dociles. Pourquoi, d'où ça vient cet intérêt pour le papier peint ?
Alors le papier peint, c'est aussi l'usage de la parure, donc de la décoration. Et c'est vrai que ça ressort pas mal dans mes différentes expositions. Là, j'ai une prochaine exposition à Aix, au Centre d'art du 3 Bicef, à partir du 4 avril jusqu'au 15 mai. Et encore une fois, il y aura l'usage du papier peint. Donc je pense qu'effectivement, il va falloir que je prenne un peu plus ça en considération. Mais oui, effectivement, il y a l'usage de la parure, l'usage de la décoration, ce qu'on cache aussi avec le papier peint, ce qu'on vient cacher. Et oui, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans mes projets.
Voilà, et donc peut-être vous voulez dire un mot sur les cordes dociles, comment étaient composés ces papiers peints dans cette exposition-là, pour que les auditeurs puissent comprendre aussi de quoi on parle.
Oui, alors les cordes dociles, c'est un projet que j'ai réalisé en résidence de février à mars 2018, et j'étais dans la Cinémathèque de Toulouse. Donc j'avais accès à toute leur collection, sachant qu'ils ont une très très belle collection. C'est la deuxième plus grande cinémathèque derrière Paris. Et ils ont une collection de bobines, de magazines, de livres qui est assez impressionnante, d'affiches aussi. Et moi j'ai principalement travaillé à partir des magazines, des années 20 aux années 50, Je trouvais cette période assez intéressante puisque ça correspond au star system américain et donc toutes ces icônes de femmes extrêmement glamour, extrêmement pulpeuses, mais aussi avec l'arrivée des critères de beauté contemporains tels que la minceur, le rajeunissement aussi des actrices, le grand sourire. Donc, je trouvais que ce basculement en termes de critères de beauté dans cette période-là était assez intéressant. Et donc j'ai travaillé à partir des magazines et je suis venue collecter, glaner au sein de ces 30 années de magazines des motifs féminins. Je trouvais que c'est personnellement que c'était assez choquant, assez misogyne. Et je pense qu'il ne faut pas être féministe pour le penser, c'était assez visible. La femme était toujours présentée en décoration, accompagnée de l'homme, enfin accompagnant l'homme et pas à l'inverse. Elle était présentée en arrière-plan. Souvent, on avait aussi des espèces de grilles de femmes habillées pareilles, même coiffure, même grand sourire. Donc ce côté vraiment décoratif de ces femmes. Et en regardant ces magazines, je me suis dit, tiens, elles font tapisserie finalement ces femmes. Et bah justement, si on jouait avec ça et si on en faisait non pas une tapisserie au sens du fil à coudre, mais plus un papier peint. Et j'ai créé toute une gamme de papier peint à partir de différents motifs féminins et que j'ai présenté dans l'espace d'exposition en lait. Donc j'ai juste accroché le haut du lait et on a sept laits qui étaient présentés. Alors je ne me souviens plus des dimensions, mais je crois que c'était au moins 6 mètres de long. Je crois que c'était 60 cm de large. Et donc, il y avait un côté magasin de papier peint. Donc, on venait choisir son papier peint. J'avais aussi créé des nuanciers. Donc, c'était des différentes versions colorées du même papier peint. On devait choisir sa couleur. Un peu comme un magasin, oui, de décoration.
Voilà, et donc tout ça avec des images féminines, hein, ces femmes, donc, comme vous le dites, qui font tapisserie. Comment ça interpelle les visiteurs, ce genre de proposition? Ou est-ce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, que c'est des images féminines qui sont...
Alors, il y a un effet de distance, puisque l'espace où j'exposais, c'était au Quai des Arts de Cugnot. C'est un très, très beau lieu, très, très grand. Et donc, il y avait un effet de distance, puisqu'on arrivait de très loin et on voyait ces grandes bandes, ces grands laits accrochés, colorés, ou noirs et blancs. Donc, c'était une installation... En soi impressionnante. Et c'est en s'approchant que d'un seul coup, on découvrait, en se rapprochant vraiment des laits, les motifs féminins. Donc je pense que déjà, il y a un effet de surprise en s'approchant qui était assez intéressant, que je notais. Et après, oui, j'ai eu des discussions très intéressantes. Après, les gens recevaient très bien ce projet, mais on parle d'une autre époque. Donc c'est critique et en même temps, on ne parle pas vraiment de nous. Donc, j'ai eu beaucoup de discussions très intéressantes. Les gens recevaient très bien ce projet. Je ne sais pas ce qui se passerait si je travaillais avec les images d'aujourd'hui. Ce serait un peu plus délicat.
Cela dit, travailler avec les images d'aujourd'hui, déjà vous utilisez Instagram, mais il me semble en plus que vous intervenez dans des collèges, dans des lycées à Marseille. Donc là aussi, cette idée de manipuler les images, de se les réapproprier, comment vous travaillez ça avec les jeunes?
Alors oui, effectivement, j'ai fait une intervention au lycée professionnel Saint-Henri de Marseille en 2018 et j'ai ensuite fait une intervention au lycée de Montauban, art plastique. Et on a à chaque fois travaillé à partir d'images récoltées sur Internet ou dans les journaux, effectivement. Mais on n'a pas travaillé sur l'image de la femme. Moi, je parlais vraiment sur l'image contemporaine de la femme qui est un peu plus complexe. Mais c'est des projets à chaque fois très différents que j'ai menés avec ces différents groupes, surtout qu'au lycée professionnel Saint-Henri, c'était une classe de primo-arrivants. Donc la barrière de la langue rendait un peu plus complexe l'utilisation d'images. Je pense qu'ils ont eu du mal à... J'ai eu du mal à faire passer le message en quoi récolter des images sur des réseaux sociaux ou sur des magazines. Et une pratique artistique en soi. Je pense qu'il y a eu un petit décalage. Mais à partir de ça, on a quand même réussi à faire pas mal de collages, de détournements. On a notamment passé de l'acétone sur des icônes contemporaines telles que Beyoncé ou Jay-Z. Et on a créé comme ça des espèces d'icônes de papier. Donc non, ça marchait assez bien. Et au lycée de Montauban, on a travaillé spécifiquement sur le réseau Instagram. Mais donc on avait une première partie où la classe histoire de l'art devait récolter les images sur le réseau avec comme contrainte le hashtag piscine. Donc il y avait des petits groupes qui s'étaient créés et je voulais juste qu'ils comprennent le travail de collection. Donc comment une collection faite intelligemment peut faire ressortir des choses de notre société. Donc il y en a qui ont choisi des modèles de piscine en forme de cœur, en forme d'ananas, des choses assez drôles. Et d'autres qui ont collecté plutôt des iconographies féminines justement au bord de la piscine. Et ensuite l'après-midi, c'était un groupe art plastique. Donc là, on a détourné, on s'est réapproprié ces collections faites avec le groupe Histoire de l'Art. Et là, on a plus travaillé dans l'espace. Voilà. Mais en tout cas, c'était très bien reçu. Et voilà.
Voilà, parce que là, l'artiste médiateur, donc c'est encore une autre facette du travail d'artiste. C'est pas évident. Et voilà, je suis pas sûre que tous les artistes aient plaisir, en tout cas, à s'engager dans ce genre de projet.
À transmettre. Ouais, c'est vrai que moi, ça fait partie de mon projet en soi. C'est-à-dire que comme j'ai un travail de recherche au sein de ma culture visuelle, puis ensuite de déconstruction, c'est vrai que la notion de transmission ou qu'il y a une sorte de message ou que le spectateur ressorte avec un regard un peu décalé ou un petit déplacement dans sa manière de percevoir sa culture visuelle contemporaine. C'est vrai que du coup, la transmission fait partie de mes projets en soi. Donc si ça peut en plus se matérialiser sous forme d'un workshop, d'un atelier, ça a d'autant plus de sens. Après, ça vient à côté du travail de recherche et ça le nourrit aussi parfois.
Et alors, est-ce qu'il y a des publics avec lesquels vous aimeriez justement travailler particulièrement ?
Bah là, j'ai pas mal diversifié parce que donc j'ai fait le lycée Saint-Henri avec une classe de primo-arrivants. J'ai fait classe histoire de l'art, art plastique. J'étais aussi en Corse avec le programme création en cours en 2019. Et donc là, j'avais une classe de primaire. Et en ce moment, je suis en résidence au Centre d'art contemporain Le 3 Bicef, qui se trouve dans un hôpital psychiatrique. Donc là, toutes les semaines, j'ouvrais mon atelier et je proposais non pas un workshop ou un atelier, mais une session. C'est-à-dire que c'est un petit peu différent. On n'est pas là pour transmettre, on est là pour ouvrir l'état des recherches aux patients et à qui veut venir de l'extérieur. Donc là, on va dire que je ne sais pas ce qui me manque, mais c'est déjà pas mal, je pense.
Mais quel endroit de rêve, le 3 bis F pour un créateur. Vraiment un fabuleux endroit. Donc j'invite les auditeurs à aller voir de plus près de quoi il s'agit, parce que c'est vraiment un lieu, à mon avis, exceptionnel. Et alors, comment dire, je reviens sur cette exposition liée donc aux travaux de l'Inserm. Et alors je vois là sur ce support qu'il y a une image de Diane immense, donc qui s'appelle Scopophilie. Voilà, donc je crois que ça c'est une exposition collective peut-être.
Oui, c'est ça. En fait, donc le programme de résidence La Recherche de l'Art, qui est donc en partenariat entre l'Inserm et le NSP, donc l'école d'art de photographie, choisi 4 jeunes diplômés. Donc c'était pour mon année, donc moi pour le laboratoire de Tours, mais il y avait aussi Diane Immense qui était à Nice, Quentin Carrière qui était à Dijon et Pauline Rousseau qui était à Paris. Pauline Rousseau qui était dans le laboratoire de recherche sur le cœur, Quentin Carrière sur la motricité et Diane Immense, je ne me souviens plus pour Diane Immense. En tout cas, on avait à la fin de ces 4 résidences une exposition collective qui s'appelait La Recherche de l'Art et qui était présentée pendant les rencontres d'Arles dans la nouvelle école de photographie d'Arles. Et donc ce qu'on peut voir dans cette vue d'exposition, c'est effectivement un moment de contact entre le travail de Diane et mon travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'affinités entre nous parce qu'elle travaille aussi beaucoup à partir d'images qu'elle récupère, notamment de l'archive. Et cette image, ça présente un chercheur qui regarde dans un microscope. Et la marque du microscope qu'on peut voir, c'est Nikon. Donc je trouvais aussi, c'est quelque chose que j'avais aussi noté dans le cadre de ma résidence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promiscuité entre le milieu de la photographie et le milieu de la recherche scientifique, puisque donc les microscopes sont de marque Leica, Nikon, on avait Olympus aussi. Je ne crois pas avoir vu Canon, mais en tout cas, il y avait déjà ces marques-là. Et il y a aussi l'utilisation de la chambre rouge pour certaines, ou chambre noire, pour le développement notamment des cultures de neurones, par exemple, à laquelle j'ai assisté et qui d'ailleurs sera présente sous forme d'image dans l'exposition dans le péristyle de l'Hôtel de Ville. Et du coup, avec Diane, on s'est mis d'accord pour mettre comme ça, pour créer des points de contact entre nos projets. Et je trouve que ça marchait assez bien, en tout cas.
Voilà, donc cette idée de pulsionscopie qui est très intéressante. Hein. Et alors, à votre avis, est-ce que quand on est photographe, on est forcément un peu voyeur ?
Moi, je ne suis plus vraiment photographe, donc je ne m'inscris absolument pas comme voyeuriste ou voyeur. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait forcément qu'on soit voyeur quand on est photographe. Et moi, quand on me dit photographe avec un P majuscule, je ne sais pas répondre ce que c'est aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une vraie crise identitaire pour la photographie avec l'arrivée du numérique. Et aujourd'hui, on passe vraiment par un éclatement des propositions formelles, autant avec des recherches beaucoup plus dans l'espace, un retour vers les techniques anciennes. Moi, par exemple, j'ai commencé un projet sur un glacier où j'active du cyanotype à partir de morceaux de glace que je viens poser sur ces cyanotypes. Donc, le cyanotype qui est une technique argentique par contact direct et qui devient bleu de Prusse après être exposé au soleil et ensuite fixé à l'eau. Donc ça, par exemple, c'est littéralement de la photographie puisqu'on vient écrire avec la lumière. Et il n'y a absolument aucun voyeurisme dans cette pratique. Donc pour moi, photographe, c'est très dur à définir aujourd'hui.
Voilà, eh bien, chers auditeurs, on vous laisse réfléchir à tout ça de votre côté. Et on rappelle peut-être une dernière fois, Hélène Bélanger, où voir votre exposition. Donc c'est du 6 au 22 mars, péristyle de l'Hôtel de Ville de Tours. Est-ce que vous voulez donner un aperçu de ce qu'on pourra y voir ?
On a déjà pas mal parlé de ce qui sera présenté. Il y aura donc pas mal d'installations. C'est de l'art visuel sous forme d'installation. On a parlé du papier peint, on a parlé du ruban qui sera présenté sur table lumineuse. Mais je vous invite juste à être curieux et à venir voir cette exposition, puisque c'est dommage de la décrire alors qu'elle est faite pour être vue.
C'est ça, on voit avec les oreilles pour le moment. Donc on vous invite évidemment à aller au Péristyle pour voir votre travail. Peut-être avez-vous un site internet où on peut suivre votre activité ?
Complètement, hélènebélanger.com.
Voilà, tout simplement. Alors grand merci à vous, Hélène Bélanger. Et je vais vous laisser aller poursuivre votre montage. Chers auditeurs, on se quitte et on va écouter justement de ces femmes... des années 50-60, on va écouter les Parisiennes. Il fait trop beau pour travailler. Bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.